Alors, bien heureux de vous retrouver ce matin pour entrer dans ce mystère de la personne humaine, telle qu'elle a été créée par Dieu, telle qu'elle est recréée par la grâce. Jean-Paul II avait dit que la grande crise actuelle était une crise anthropologique. Finalement, on ne savait plus qui était la personne humaine. Et il y a une sorte de rupture systématique au fil des siècles qui s'est produite, qui fait qu'on a perdu le sens des origines en quelque sorte. Quand on regarde un petit peu l'histoire de l'Église, il y a eu une grande rupture au XIVe siècle. C'était la rupture avec le sens de la nature. Il s'est trouvé un théologien à Paris qui s'appelait Guillaume d'Ockham, qui était un franciscain d'origine, qui enseignait à la Sorbonne notamment, et qui finalement a posé la question de l'arbitraire divin. Dieu est arbitraire. Dieu n'est pas celui qui met tout en ordre. Finalement, pour défendre la toute-puissance de Dieu, il a exclu de Dieu sa toute sagesse. Et alors, il arrivera à dire que si Dieu avait dit qu'il était bien de tuer, il serait bien de tuer simplement parce que Dieu l'a dit. Il voyait en Dieu une sorte de dictateur qui décide de manière complètement arbitraire les choses. Il n'y avait pas cette intelligence de la sagesse et de l'amour de Dieu qui ordonne sa toute-puissance au bien et à la plénitude. Et alors, cette rupture avec cette intelligence du mystère de Dieu dans sa sagesse, dans son amour, a fait qu'il en a conclu quelque chose de très important et de très grave pour l'homme. La liberté de l'homme ne consiste pas à devenir ce que nous sommes appelés à être. C'est-à-dire que l'homme ne choisit pas ce pour quoi il est fait, mais il choisit d'accepter ou non ce pour quoi il est fait. Voyez-vous, c'est ça la liberté. Pour le chien ou le chat, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de liberté. Il fait ce qu'il a à faire. L'arbre, là, il n'y a pas de liberté. Au printemps, il commence à fleurir, les feuilles poussent, et puis chaque année, c'est le même cycle. C'est magnifique, c'est extraordinaire. On s'extasie devant un arbre en fleurs, on s'extasie devant la création, parce qu'elle répond à cette sagesse de Dieu qu'elle fait naturellement, pour l'animal par instinct, pour la nature, pour les plantes et les arbres, par puissance créatrice, ce qu'ils sont appelés à être. L'être humain est le seul être qui peut choisir de devenir ou pas devenir ce qu'il est appelé à être, de vivre la plénitude à laquelle il est appelé ou de ne pas la vivre. Ce n'est pas sans conséquence. Mais pour Guillaume d'Ockham, oui, l'homme choisit sa propre finalité. L'homme décide de manière indifférente de devenir cela ou autre chose. L'homme est aussi arbitraire quant à sa finalité. Il n'y a pas inscrit dans le cœur de l'homme, chez Guillaume d'Ockham, une tendance, un appel à une plénitude d'être. Et finalement, la liberté pour Guillaume d'Ockham consiste de manière indifférente à devenir cela ou autre chose. De faire le bien, de faire le mal, c'est indifférent pour Guillaume d'Ockham. Alors que dans la conception classique de la liberté, dans la conception divine de la liberté, c'est pas indifférent de poser un acte bon, de poser un acte mal, un acte mauvais, voyez-vous. Il y a une plénitude de vie à laquelle je suis appelé à être, il y a un mode d'emploi du bonheur inscrit dans le cœur de l'homme, y répondre ou ne pas y répondre, il y a une conséquence grave, où je suis heureux ou je suis malheureux. Pascal disait plus tard, tout homme cherche à être heureux, ça c'est l'appel profond inscrit dans le cœur de l'homme, même celui qui va se pendre, seulement il se trompe de chemin, ça c'est vrai. Donc on cherche tous à être heureux, on cherche désespérément à être heureux, mais on se trompe de chemin. Et dans notre communauté, nous accueillons des jeunes qui ont passé par différentes difficultés, la drogue, l'alcool, la violence. Et je me souviens toujours de cette fille qui avait sauté d'un pont de 47 mètres et qui était tombée sur un arbre, qui était donc sortie vivante de cette épreuve, mais avec de nombreuses souffrances physiques, morales, vous imaginez. Et quand elle a quitté l'hôpital psychiatrique pour venir chez nous, elle m'a dit plus tard, il m'a fallu autant de courage pour venir à la fraternité, pour rencontrer le Seigneur en quelque sorte que pour sauter du pont. Cette expérience qu'il fallait une force extraordinaire pour répondre à l'appel. Derrière tout ça, c'était la soif de vie qui, même à travers l'acte de mort, c'est la soif de vie qui l'interpellait profondément, mais sans trouver d'issue, sans trouver de sortie, sans trouver d'espérance à cette vie. Cette expérience profonde d'une quête, mais désordonnée. Je pense toujours à cette fille un jour qui était venue, elle avait fait 3 tentatives de suicide, elle avait 16 ans, 15 ans et demi, hôpital psychiatrique, très violente, elle connaissait les flics, mais à coups de batte de baseball. Et puis, elle était en hôpital psychiatrique et quand la femme est venue lui faire une piqûre, elle était en isolement complet, et lui faire une piqûre pour la calmer un petit peu, l'infirmière s'est faite défoncer et a dû partir à l'hôpital. parce que elle s'est fait casser la figure par cette fille. Et à ce moment-là, le psychologue et le tuteur me téléphonent en disant je ne pourrais pas l'accueillir. Sa sœur avait passé chez nous, elle avait fait 5 ans d'héroïne et était sortie de la drogue. Et cette fille était aussi dans la drogue et tout. Elle a dit, pourquoi je n'irai pas là où ma sœur était? Et moi, je l'ai rencontrée une fois, cette fille. Et quand j'ai vu la boule de nerf que c'était, j'ai dit, ça, c'est une fille qui fond l'air une maison. À elle seule, elle est capable de tout faire péter. Alors, j'ai dit, écoutez, non, c'est vraiment pas possible, on peut pas l'accueillir. Et on m'a dit, écoutez, on la mettra dans la rue, les flics s'occuperont d'elle. Et je dis, mais attendez, vous ne pouvez pas faire ça quand même, c'est pas possible. Écoutez, nous, on ne peut plus la supporter à la psychiatrie, on ne peut plus la tenir, c'est trop grave. Et il ira en prison. Et puis, je dis, écoutez, c'était un vendredi, je me souviens, je dis, écoutez, amenez-la lundi. On la mettra dehors le week-end, et puis si on la récupère lundi, on vous la ramènera lundi. Je dis, écoutez, vous ne pouvez pas faire ça. Enfin, je dis, amenez-la ce soir, c'était le vendredi matin. Le gars, il dit, je débarque tout de suite. Alors, il débarque avec cette fille. Quand j'ai vu l'étage, je dis, dans quelques heures, elle va se casser, quoi. C'est pas trop long, ou quelques jours. Donc, je me suis dit, c'est pas trop grave, on va faire le gros dos, on supportera. Et puis, ça a duré jusqu'au jour où elle se met à hurler. De toute façon, vous me faites tout chier. Moi, je me casse. Je dis, écoute, tu peux te casser, mais pas avant qu'on aille causer. Elle me dit, j'ai rien à voir avec toi, tu dégages, laisse-moi les baskets. Alors je la suce dans sa chambre, et puis là, je bloque la porte. Elle me dit, t'as pas le droit de rentrer ici. Je dis, écoute, on est tous les deux chez le Seigneur, c'est pas ta chambre, c'est pas la mienne, c'est vrai, mais je t'ai dit que tu partais pas avant qu'on cause. Soit elle me dit, j'en ai rien à foutre, je fais mes bagages et je me casse, tu peux être là si tu veux, ça me gêne pas. Alors elle met ses affaires dans sa valise. À ce moment-là, je ferme la valise, je m'assieds dessus et je dis, écoute, je t'ai dit, tu partais pas d'ici avant qu'on ait causé. Après, tu peux te casser, tu fais ce que tu veux, mais tu pars pas d'ici avant qu'on ait causé. Et elle s'approche de moi avec le poing comme ça. Alors là, j'ai enlevé mes lunettes en disant qu'il valait mieux un œil au beurre noir qu'un œil crevé. Et quand elle s'approchait tout près de moi avec le poing comme ça, elle s'arrêtait, elle s'est bloquée. Et elle s'est mise à crier en disant, mais pourquoi je suis comme ça? Ah, je dis, ça, c'est une bonne question. Assieds-toi, on va en causer. On a passé longtemps comme ça à parler. Et puis, je lui dis, tu vois, ton cœur crie une soif, c'est la soif de Dieu. Alors, je te propose une chose, on fait un deal, les deux, si tu veux, quand tu as envie de péter les plombs et de casser la gueule à tout le monde, eh bien, tu vas à la chapelle, on a l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement jour et nuit, donc tu vas là-bas, tu te mets devant. Je dis, mais j'y crois pas ton machin, ce petit machin rond, je sais pas ce que c'est. Tu me dis que c'est Dieu, mais j'en ai aucune preuve, rien du tout. Je dis, vas-y, tu lui poses la question. Et pour moi, tu t'emmerdes pas tout le monde à côté, ça c'est, lui, il supporte bien, il est habitué à encaisser les coups. Nous, on a plus de peine à supporter, alors tu vas là-bas pour ça, puis elle y allait régulièrement, et les choses étaient plus ou moins supportables pour la maison, jusqu'au jour où, en passant devant la chapelle, elle était en train de sortir, et elle se tenait comme ça, elle me dit, aïe, aïe, aïe. Je dis, mince, qu'est-ce qui se passe? Le cœur, elle me dit. Je dis, viens, on part vite à l'hôpital. J'ai fait encore une crise cardiaque en plus, avec toutes les histoires qu'elle a. Elle me dit, non, c'est pas ça, c'est l'amour. Alors je dis, attends, explique-moi ce qui se passe. Et elle me raconte qu'elle en est tellement marre, qu'elle dit, maintenant Seigneur, c'est la dernière chance que je te donne. Ou c'est toi qui es là et puis on fait quelque chose ensemble, ou alors moi c'est fini, ma vie elle est terminée. Cette fois-ci je me loupe pas. Et elle s'était mise devant le Saint-Sacrement à genoux à ça de l'ostensoir.